Délivrez-vous, une émission de Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
Bonjour à tous. Bonaparte n'est plus. Alors vous allez me dire, ça, nous le savions. Mais oui, mais ça n'était pas forcément le cas lorsqu'il a disparu ce 5 mai 1821, parce que nous allons le voir, eh bien le monde, le peuple français ne l'a pas appris tout de suite, loin de là. Alors Bonaparte, le général Bonaparte, comme l'appelaient les Anglais, eh bien nous allons dire notre empereur Napoléon Ier. Car pour les auditrices et auditeurs de ces deux ailes, qui ne le savent sans doute pas encore, je suis une férue de l'histoire napoléonienne. Et pour cela, j'ai la chance, bien souvent, de pouvoir interviewer mon invité d'aujourd'hui, qui est un des grands maîtres de l'histoire du Premier Empire. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour.
Merci d'avoir de nouveau accepté mon invitation pour ces deux ailes. Délivrez-vous sur votre dernier ouvrage, Bonaparte n'est plus, juillet-septembre 1821, aux éditions Perrin. Alors, vous êtes président de la Fondation Napoléon, vous êtes lauréat de l'Académie des sciences politiques pour l'ensemble de vos œuvres. Alors, je le disais, vous êtes un maître dans l'histoire du Premier Empire. Vous aviez écrit déjà sur la mort de Napoléon, mais là, c'est un tout autre livre, Bonaparte n'est plus. Il est décédé le 5 mai 1821 à 17h49. Et je vais dire, en fait, là, tout va commencer. Parce que peu de gens vont le savoir et le monde certainement pas tout de suite. Comment se fait-il ? Alors, c'est Montholon qui va envoyer, en informer le Love, le britannique, l'ambassadeur britannique, mais il va s'en passer des choses entre le moment où Napoléon décède après une longue maladie, des souffrances, et puis au moment où finalement le monde va s'en apercevoir.
Oui, il se passe beaucoup de choses parce que l'époque est faite comme ça. Hein. Il n'y a pas de moyens modernes, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Facebook et autres.
Et Sainte-Hélène est loin. Et Sainte-Hélène est loin, il faut le rappeler.
Sainte-Hélène est en plein milieu de l'Atlantique Sud. Il faut à peu près 2 mois pour se rendre en Europe à partir de Sainte-Hélène. Et c'est le temps que va mettre la nouvelle pour arriver à Londres. Et puis ensuite, percoler, on va dire, dans l'opinion, en plusieurs semaines entre Londres et Moscou, on va dire.
Oui. Alors, c'est un bateau hein, qui va être affrété pour transporter, dirais-je l'annonce. Moi, ce qui m'a quand même interloqué, c'est que finalement, il y a peu d'émotion de la part du peuple, même de la famille Bonaparte. L'émotion viendrait plutôt du côté des militaires. Mais sinon, le monde et le peuple n'est pas très ému.
Oui. Parce que, les napoléonistes, comme vous et moi, avons l'impression qu'il ne s'est rien passé d'autre en 1821 que la mort de Napoléon. En fait, il se passe beaucoup de choses en Europe à ce moment-là, que ce soit en politique intérieure anglaise ou française, mais aussi en politique internationale, parce que l'Europe traverse une crise très grave à ce moment-là. Il y a des révolutions libérales à Naples, à Turin, en Espagne. Il y a aussi la révolution grecque qui commence, avec des tensions très fortes entre l'Angleterre qui voudrait maintenir l'équilibre européen et les puissances qui soutiennent qui la révolution libérale, qui la révolution grecque. Donc c'est un moment très particulier, dans lequel on a beaucoup, beaucoup d'autres soucis. Et il faut dire que Napoléon est absent de la scène depuis 6 ans, et on l'a un petit peu oublié aussi.
Et oui, puisqu'en 1815, bien évidemment, c'est Waterloo, et tout ce qui s'en est suivi, bien évidemment. Alors, votre livre, ce sont des textes, de la recherche inédite, et notamment... très intéressant, la déclaration de sa mort qu'il a dictée à Montholon, mais c'est Napoléon lui-même qui a dicté ce document.
Oui, c'est ça. C'est que Napoléon a mis sa mort en scène. Oui. Il a mis sa mort en scène comme le faisaient les rois. Hein. Il est mort en public d'abord. Il y avait une vingtaine de personnes dans la pièce. Il n'est pas mort, vous savez, dans sa chambre, simplement assisté de son médecin. Il a voulu mourir devant tout le monde. Oui. Et il avait préparé, effectivement, la lettre d'annonce de sa mort, qui a été signée par le général de Montholon, dans laquelle, à la fois, on annonce la mort de l'empereur Napoléon, et non pas du général Bonaparte, évidemment, et puis son désir d'être rapatrié, que ses cendres, que son corps soit rapatrié en Europe. Et c'est une des rares fois où c'est même la seule fois où le gouverneur de Sainte-Hélène, Hudson Lowe, va accepter de recevoir une lettre dans laquelle il est fait référence à l'empereur Napoléon. Jusqu'à présent, Hudson Lowe répondait systématiquement « À ma connaissance, il n'y a pas d'empereur sur cette île. » Là, il a quand même cette espèce de savoir-vivre ultime d'accepter la lettre de Montholon telle qu'elle a été rédigée.
Alors, bien en deçà de sa mort, c'est-à-dire 6 ans avant, en 1815, quand tout s'arrête pour Napoléon, on s'aperçoit aussi que les différents responsables européens, prussiens, autrichiens, anglais, russes, se divise un petit peu les choses en disant voilà, la garde finalement napoléonienne ira sous la responsabilité des Anglais. Déjà en 1815, on le tuait déjà un petit peu au préalable.
Oui, c'est-à-dire que on avait décidé que le lieu de captivité de Napoléon serait Sainte-Hélène. On l'a décidé, on va dire, déjà à l'époque où il était à l'île d'Elbe, hein, on pensait à Sainte-Hélène parce que c'est une île complètement isolée et c'est une île qui appartient à un des grands alliés, donc l'Angleterre en l'espèce. Et donc les autres puissances vont complètement remettre la responsabilité de la garde de Napoléon à l'Angleterre. Et les Anglais, se sentant investis de cette responsabilité, qui est quand même assez grande, hein, rappelons que les 100 jours ont été un moment perturbateur de l'histoire européenne, hein, alors que le Congrès de Vienne essayait de retricoter un petit peu l'Europe, Napoléon est venu un petit peu perturber, et pas qu'un peu d'ailleurs, ce nouvel équilibre européen. Alors les Anglais vont appliquer à Napoléon un régime extrêmement sévère. La postérité en a imputé la responsabilité au gouverneur, hein, le fameux Hudson Lowe, alors qu'en réalité, toutes les instructions venaient de Londres, où très très loin, à 4 mois de distance, vous savez, entre l'aller-retour, il était très facile de donner des ordres extrêmement sévères que le dit gouverneur appliquer, lui, de façon extrêmement scrupuleuse.
Oui. Alors, on pourrait penser aussi que toutes ces instances politiques, il y a une forme de vengeance à récupérer un petit peu sur les cendres de Napoléon, que ce soit les Russes, les Prusses ou les Autrichiens, parce que effectivement, il avait fait la guerre, il leur avait fait la guerre. On peut penser qu'ils se sont frottés les mains et que pour eux, ça a été une libération. Voilà, ouf, ça y est, c'est terminé, on en est débarrassé.
Ah oui, c'est incontestablement, hein. C'est-à-dire que d'abord les puissances vainqueurs se fondent sur une déclaration du Congrès de Vienne qui a été prise dès la mi-mars 1815 qui met Napoléon hors la loi. C'est-à-dire que il ne peut pas bénéficier des dispositions, certes encore assez faibles à l'époque, mais enfin, des dispositions sur les prisonniers de guerre, en Angleterre sur les prisonniers qui ont droit à faire valoir l'habeas corpus, etc. Il est vraiment un prisonnier très particulier, il est le prisonnier diplomatique de l'Europe, en quelque sorte, et donc c'est pourquoi c'est un droit extrêmement particulier qui va lui être appliqué. Et notamment, à partir de 1818, le Congrès international d'Aix-la-Chapelle décide qu'il ne quittera pas Sainte-Hélène. Donc à partir de 1818, Napoléon sait qu'il va mourir à Sainte-Hélène et ça va tout changer dans sa captivité.
Oui, évidemment. Et puis dans l'esprit aussi, de la façon dont il va aborder les choses.
Voilà, c'est-à-dire qu'il commence à ce moment-là à se dire, bon ben, puisqu'on va me laisser mourir sur cette île, eh bien, je vais commencer moi-même à construire ma légende. Comme il le dit à son entourage, si le Christ n'avait pas été crucifié, il ne serait pas Dieu. Et c'est un peu sur ce mode de fonctionnement que va avancer Napoléon. Napoléon va glisser lentement vers la mort.
Oui. Alors, il aura fallu des décennies, sans exagérer, pour que finalement la mort de l'empereur de Napoléon donne des certaines angoisses ou en tout cas certaines émotions. Et puis aujourd'hui, on connaît l'engouement finalement du monde pour Napoléon au travers de tous les écrits, de tout ce qui a été écrit et fait sur lui. Il y a eu également beaucoup de mensonges écrits sur sa captivité et sur sa mort.
Oui, alors, il y a eu beaucoup de mensonges à l'époque parce qu'on est très mal informé. On s'aperçoit quand on lit les textes de l'époque et par exemple les petites biographies qui sont publiées, les nécrologies qui sont publiées dans les journaux à cette époque, on s'aperçoit que les gens savaient au fond assez peu de choses sur Napoléon. Hein. Mmh. Il y a par exemple une biographie qui est publiée dans un journal anglais, dans laquelle on le donne comme étant un ingénieur. Mmh. Au départ, il était un ingénieur qui s'est jeté dans la Révolution, qui est devenu le fils des Jacobins. Et quand on dit Jacobin chez les Anglais, ça veut dire oui. sanguinaire, oui. Qui emploie la guillotine, enfin, etc. Et on s'aperçoit que l'information historique, que nous appellerions l'information historique, est extrêmement bâclée hein, du côté de ceux qui ont annoncé la mort de Napoléon.
Alors, on disait l'information circule mal. Il faudra effectivement à peu près 2 mois, hein, juillet-septembre 1821, pour que l'annonce se fasse. Moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que je pensais que sa famille serait quand même touchée. Et on s'aperçoit que chez les Bonaparte, finalement, il n'y a pas beaucoup d'émotions non plus.
Non, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Au fond, les Bonaparte se réduisent à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire un peu à certains moments des profiteurs, des gens qui ont oublié que toute leur fortune, toute leur la gloire qu'ils ont pu acquérir et vient directement de Napoléon. Hein, c'est lui qui a fait sa famille aussi. Mmh. Et on s'aperçoit que ils ont bien sûr une peine individuelle, comme lorsqu'on perd un fils ou un frère. Mais tout ça dure peu dans le temps, et puis chacun va rentrer chez soi. Au départ, ils se rendent tous à Rome auprès de la mère de l'empereur, oui. celle qu'on appelle Madame Mère.
Madame Mère, oui.
Et puis, au bout d'un petit moment, tout le monde va rentrer chez soi, et au fond, ils attendent tous un petit peu que on ait ouvert le testament de Napoléon. Tous pensent que Napoléon est très riche et que, par conséquent, il va leur laisser à chacun une petite fortune. Or,
c'est pas le cas.
À l'ouverture du testament, on s'aperçoit que la famille n'est pas si bien traitée que ça. Mmh. Napoléon a légué à chacun de ses frères et sœurs des petits objets, des petites choses, des petits souvenirs de lui. Mais Napoléon considérait que leur fortune ayant été faite, il n'avait pas besoin d'en rajouter. Et que la fortune qu'il possédait, elle devait aller à ceux qui l'avaient soutenu, à ceux qui étaient restés avec lui à Sainte-Hélène jusqu'au bout. Et donc, là, il y a eu une deuxième vague de déception dans la famille Bonaparte à ce moment-là.
Oui. Comment expliquez-vous, sans doute en avons-nous déjà parlé, mais que cette émotion, je dirais, populaire et autre, soit arrivée si tardivement et qu'aujourd'hui, il y ait cet engouement, cet intérêt? Pourquoi si tard? Que s'est-il passé durant ces décennies? Beaucoup de choses, vous me direz. Beaucoup de choses.
Oui, c'est une assez longue histoire. D'abord, en effet, comme vous le dites, l'émotion a été limitée à quelques milieux militaires, oui. quelques anciens dignitaires
très proches,
de l'Empire,
très proches,
etc.
Oui.
Il y a eu très peu de manifestations collectives à ce moment-là. Un des auteurs de l'époque dit « on pleure en dedans ». voilà, donc il n'y a pas eu de grandes manifestations, comme je le dis à un moment donné, genre Jean d'Ormesson ou Johnny Hallyday, où les oui. gens se retrouvent pour pleurer ensemble. Oui. Et puis, une espèce de petite mèche a été allumée, qui est la mèche de la légende napoléonienne, qui, elle, va mettre un peu plus de temps à se développer. D'abord parce qu'il va falloir attendre la publication des grands textes de Sainte-Hélène. Alors, il y en a une première vague en 1822, qui sont des souvenirs, on va dire, pris à la volée par les compagnons de Napoléon à Sainte-Hélène. Et puis surtout, en 1823, c'est la publication du mémorial de Sainte-Hélène par Emmanuel de Lascazes. Oui. Et là apparaît véritablement l'objectif politique de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est-à-dire se recréer lui-même, non plus comme l'empereur de l'égalité qu'il avait été sous son règne, mais cette fois-ci comme l'empereur de la liberté. Alors ça, c'est très étonnant parce que pendant son règne, Napoléon n'a jamais été l'empereur de la liberté. Non. Il était vraiment celui de l'égalité. Oui. Et donc cette nouvelle image va permettre, d'abord, les libéraux vont croire qu'ils vont annexer la légende napoléonienne et s'en servir pour leur propre vue politique. Quand je dis les libéraux, ce sont les Lafayette, ce sont les Pasquier, etc. Et c'est en fait l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que le bonapartisme va annexer complètement les idées libérales. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre une vingtaine d'années, de telle sorte que la doctrine politique du bonapartisme va être totalement modifiée par rapport à ce qu'avait été la réalité du règne de Napoléon.
Alors, on se rend compte aussi au travers de votre livre qu'il a énormément souffert, beaucoup de douleurs. Il a un médecin qui est près de lui pendant un bon moment. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, avec certitude, de quoi est mort Napoléon ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on le sait depuis toujours. Hein. Alors évidemment, je pense que vous faites un peu allusion aux mystères qui entourent la mort de Napoléon, mais qui sont des mystères, on va dire, médiatiques.
Médiatiques, oui.
On possède, dans le cas de Napoléon, un document essentiel qui est un rapport d'autopsie. Alors, Napoléon avait auprès de lui, à Sainte-Hélène, un médecin qui s'appelait Anton Marquis, lequel était un mauvais médecin, mais un dissecteur de métier, c'est-à-dire que c'était l'homme qui faisait les dissections dans les facultés de médecine. Et lorsqu'il a fait l'autopsie, il a fait une autopsie totalement réussie, avec un rapport extrêmement précis, qui permet de savoir que Napoléon souffrait, par exemple, au moment de sa mort, d'un début de cancer de l'estomac, qui était dû à la perforation d'un ulcère, et que cette maladie provoquait chez lui une hémorragie permanente, alors un peu goutte à goutte, si vous voulez, laquelle hémorragie a été accélérée par une prise massive d'un médicament qui s'appelle le calomel, qui a provoqué une hémorragie interne massive, qui a entraîné la mort de Napoléon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des histoires d'empoisonnement, que sais-je encore.
À l'arsenic, etc.
Qui sont des romans, des romans absolus.
Que M. de Montholon aurait injecté progressivement dans la nourriture, etc.
Oui. Enfin, on a déjà fait, comment dire, nous avons fait droit à cette théorie dans un livre précédent avec Jacques Massé. Oui. Cette théorie ne tient pas debout.
Donc il était réellement malade. On peut penser qu'il était malade déjà depuis un moment.
Oui, bien sûr. On est là aussi en présence toujours de cette répétition de la communication sur les chefs d'État. Napoléon passait pour être un homme toujours en forme, toujours au galop, toujours à cheval, etc. En fait, Napoléon a souffert de beaucoup de maladies pendant son règne. Alors, des maladies bénignes, mais comme tout le monde, je veux dire, le rhume, la grippe éventuellement, mais il a aussi souffert de maladies graves qui provoquaient chez lui un gonflement des jambes, de la dysurie, c'est-à-dire une grande difficulté à uriner, une faiblesse générale de la sphère intestinale, où il a toujours souffert de l'estomac, de l'intestin, etc. Et donc c'est un homme qui était déjà affaibli, mais qui a été encore plus affaibli au moment de sa chute en 1815 par les 2 ou 3 années qu'il venait de passer, qui sont épuisantes, entre la campagne de Russie, d'Allemagne, la campagne de France, la campagne de Waterloo. Cet homme est totalement démoralisé au moment où il arrive à Sainte-Hélène, et il va devenir en plus complètement désœuvré, parce qu'il n'a rien à faire à Sainte-Hélène, si ce n'est dicter ses mémoires, et donc l'ennui va ajouter à tout ça, enfin une espèce de dépression générale, renforcée encore en 1818 par les décisions du congrès d'Aix-la-Chapelle.
De le laisser à Sainte-Hélène.
Sainte-Hélène.
Eh bien, ce que nous allons laisser pour l'instant, c'est les auditrices et les auditeurs de ces deux ailes pour une petite pause musicale, et nous nous retrouvons tout de suite après.
Thank you.
retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Thierry Lenz pour son dernier ouvrage Bonaparte n'est plus aux éditions Perrin. Alors nous parlions de la maladie de Napoléon, il a eu toujours des petites maladies tout au long de sa vie. Il ne faut pas oublier non plus qu'il dormait peu, qu'il travaillait beaucoup, ça devait être un anxieux et un angoissé aussi, tout ça n'a rien arrangé non plus, et bien sûr y compris sa captivité bien évidemment.
Ah oui, oui. En plus, il est maintenu captif dans un endroit qui est un endroit où il y a toujours du vent, où la température varie d'une minute à l'autre. Sainte-Hélène est dans l'ensemble une île fort agréable, qui ressemble un petit peu aux Canaries, mais on a placé Napoléon dans une maison qui se trouve au sommet de l'île, un endroit qui est battu par les vents, où, encore une fois, le climat change pratiquement d'une minute à l'autre. Donc déjà, on va dire des conditions dans de l'humidité permanente, avec une garde anglaise qui l'empêche de sortir librement et ainsi de suite. Et puis une espèce d'ambiance confinée avec quelques compagnons. Hein. Il y a là moins d'une dizaine de Français à la fin de sa vie, au cours de laquelle, que faire toute la journée dans cette toute petite maison un peu dicter ses mémoires, mais aussi participer aux petites luttes mesquines de son entourage, parce que le drame de Sainte-Hélène, il se joue aussi dans des questions de préséance, dans des questions de préférence à l'égard de l'empereur, etc. C'est une ambiance extraordinairement angoissante, l'ambiance de Sainte-Hélène. Donc on comprend que le moral de l'empereur n'ait pas été au beau fixe et se soit dégradé au fur et à mesure. L'irruption de la maladie qui a lieu à la fin de l'année 1819, bien sûr, ajoute à tout ça, parce que Napoléon se met, comme vous l'avez dit, il se met à souffrir beaucoup, il se met à rendre beaucoup, il a de plus en plus de mal à s'alimenter, et donc tout ça crée cette ambiance des deux dernières années qui est une ambiance lugubre.
Oui, surtout pour un homme qui, a dominé le monde, finalement, il a fait tant de choses, a construit tant de choses. Il faut rappeler à nos auditrices et auditeurs que bon nombre de choses aujourd'hui dans notre société subsistent et sont l'œuvre de Napoléon Bonaparte. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais bon, je trouve ça juste de le rappeler. Voilà. Oui, alors, la disparition des chefs d'État, des gens connus, soulève toujours une immense, liesse populaire, mais liesse dans le mauvais sens. Oui. On le disait pour Napoléon, ça a été un peu tardif, ça a été après sa mort, finalement.
Oui, oui. Lorsqu'on apprend la mort de Napoléon, d'abord on l'apprend par des journaux, des journaux qui ont peu de lecteurs.
Et un journal anglais. D'ailleurs.
Alors d'abord un journal anglais qui donne la nouvelle le premier, et puis ensuite on va recopier au fur et à mesure les espèces de communiqués que le ministère de la guerre anglais va donner à la presse. Donc on sait assez peu de choses, et on a vraiment l'information, on va dire, minimum officielle. Et donc, une fois que ça paraît dans les journaux, il faut le temps que ces journaux soient lus, qu'ils ont très peu de lecteurs. Hein. On est sur un nombre de lecteurs par journal de 4 à 5 000, si vous voulez. Donc il faut ensuite que la nouvelle soit connue des autres, de ceux qui n'ont pas lu le journal. Et donc tout ça met beaucoup de temps et tout ça va lisser les réactions, faire en sorte qu'il n'y aura pas, comme nous le vivons par exemple aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, on le sait tout de suite, et l'émotion collective est immédiate. Là, nous avons quelque chose qui va durer sur des semaines, voire sur des mois, ce qui fait que la nouvelle n'est pas un choc général, ça va être une succession de petits chocs individuels qui ne créent pas une réaction collective.
Oui. En faisant vos recherches avec tous ces textes et ces documents inédits, avez-vous, Thierry Lenz, découvert de nouvelles choses ?
Écoutez, oui. D'abord, comme je me concentre sur la période juillet-septembre 1821, c'est-à-dire une période où on sait peu de choses sur ce qui s'est passé à Sainte-Hélène parce que les compagnons de Napoléon ne sont pas encore rentrés en Europe, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on n'avait cru très longtemps, que vraiment la mort de Napoléon est un événement presque banal.
Un non-événement.
Alors on s'aperçoit aussi que d'une forme d'habileté des gouvernements anglais et du gouvernement français, c'est-à-dire qu'ils se contentent de la nouvelle de la mort de Napoléon, voilà un problème que nous avons en moins, en quelque sorte, et ils donnent des consignes assez clair pour qu'il n'y ait aucun triomphalisme de la part des adversaires de Napoléon, et puis pour qu'on laisse le deuil se faire. Alors évidemment, on ne laisse pas aller jusqu'à la publication de pamphlets qui sont trop agressifs à l'égard du roi en France ou à l'égard de la majorité conservatrice en Angleterre, mais globalement, on laisse les choses se faire en se disant il va y avoir un moment d'émotion, laissons-le passer, et puis on passera à la suite après, quoi.
Alors, il faut rappeler qu'il est mort, il était jeune, pour notre époque aujourd'hui, c'est jeune, puisqu'il est né en 1769, si ma mémoire est bonne,
un
15 août.
Pas encore 52 ans.
Pas encore 52 ans, c'est très jeune. C'est très jeune. Sans doute, vous avez déjà posé la question, mais s'il n'était pas mort, s'il avait continué, notre monde et notre société aujourd'hui seraient bien différentes?
Écoutez, évidemment, c'est toujours difficile pour un historien de jouer avec les si.
Je sais bien.
Bon, très probablement, il serait mort à Sainte-Hélène. Alors, s'il était mort 20 ans plus tard à Sainte-Hélène, imaginez, ça aurait été...
Oui, parce qu'il 52 ans, il pouvait vivre au moins encore 20 ans.
Hein? Ah oui, complètement. S'il s'était plié aux exigences des Britanniques, s'il avait accepté d'être toujours accompagné d'un garde lorsqu'il voulait sortir, il aurait pu avoir une vie... comment dire, la vie d'un prisonnier, on va dire, qui peut quand même aller se promener, qui peut faire un peu d'exercice physique. En fait, c'est presque lui-même qui a décidé d'avoir cette mort, parce qu'il refuse, évidemment, il s'oppose à ce qu'un officier anglais l'accompagne dans tous ses déplacements, etc. Donc il va rester dans cette petite maison. Enfin, c'est une maison qui fait, pour ce qui concerne Napoléon, il doit avoir à peu près 400 mètres carrés à sa disposition. Donc vous allez me dire, c'est grand. Mais il faut quand même rappeler que Napoléon avait vécu aux Tuileries, il avait vécu à Fontainebleau. Donc c'était... Et dans des conditions de confort qui évidemment, étaient bien supérieures à ce qu'on lui offrait à Sainte-Hélène.
Bien sûr. Mais bien au-delà, ma question allait aussi, quand je vous dis s'il n'était pas mort à 52 ans, mais s'il n'était pas mort à Sainte-Hélène, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Waterloo, s'il avait gagné Waterloo.
Ah, ça, alors ça, c'est la grande question.
C'est la grande question.
Sur Waterloo, évidemment, il faut quand même reconnaître que la période des 100 jours ne pouvait que se terminer par une grande défaite militaire.
Bien sûr.
Il aurait gagné la bataille de Waterloo. Son idée à lui n'était évidemment pas d'aller battre toutes les armées adverses qui marchaient sur la France, c'était de frapper un grand coup et ensuite d'essayer d'avoir des négociations. Mais ce que nous savons aussi, c'est qu'il était pour les Alliés hors de question de négocier avec lui. Donc la guerre aurait probablement continué, et sous le nombre, les armées françaises auraient été probablement à un moment donné vaincues. Il n'y a pas de si vous voulez. Oui. Très probablement...
Ni de regret à avoir quelque part aussi.
Le vrai regret, c'est le retour de l'île d'Elbe. C'est-à-dire que ce moment-là est un moment catastrophique pour la France. C'est-à-dire que Napoléon revient, mais la France va être cette fois-ci vaincue et sanctionnée, ce qui n'avait pas été le cas en 1814.
Oui.
Une grande indemnité de guerre. Rappelons que le territoire a été occupé pendant 3 ans. Il y avait des Bavarois à Clermont-Ferrand. L'ensemble du territoire français était occupé. Alors, évidemment, sur le plan, en valeur absolue, c'est une grande catastrophe, mais sur le plan de la légende napoléonienne, c'est évidemment un élément essentiel de la légende napoléonienne. S'il n'y avait pas eu le retour de l'île d'Elbe et Waterloo, nous ne serions pas là pour en parler. On aurait eu cette espèce de météore dans l'histoire de France, ce gouvernant qui a rétabli la paix civile, qui a posé les bases de l'État moderne, mais qui a été vaincu militairement. Et voilà, on en serait là, on aurait un personnage de l'histoire normal.
Oui.
Or, Napoléon n'est évidemment pas un personnage de l'histoire normale.
Et non, absolument. En tout cas, Bonaparte n'est plus, aux éditions Perrin de Thierry Lenz. Je vous remercie infiniment. Je suppose que vous avez encore plein de projets concernant Bonaparte et d'autres choses.
Oui, bien sûr. Écoutez, je pense qu'on peut dès à présent annoncer à vos auditeurs qu'il y aura en 2021 une célébration très importante du bicentenaire de la mort de Napoléon.
J'y ai pensé.
En tout cas, nous y travaillons beaucoup. Et puis, n'oublions pas aussi que cette année, c'est le 250e anniversaire de sa naissance. Et donc, j'allais dire, les bicentenaires recommencent à zéro à partir de cette année.
Puisqu'on rappelle qu'il est né en 1769. Et nous a quittés, allez, on va dire légèrement en 1821. Oui. Voilà. En tout cas, merci de nouveau pour ce livre. Bonaparte n'est plus aux éditions Perrin, Thierry Lenz. Et puis, sachez que ce micro vous est constamment ouvert. Vous êtes un éternel invité, vous le savez.
Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.